Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre Santé, un trésor. C'est une sous-émission de Votre Santé, un trésor que je vous propose aujourd'hui, une sous-émission médecine et soins à Nîmes. J'ai le grand plaisir renouvelé de recevoir aujourd'hui encore le docteur Camille Lapierre. Nous avons siégé ensemble, le docteur Camille Lapierre et moi, au sein du Conseil de l'Ordre des médecins du Gard, dans lequel il était vice-président. Depuis qu'il m'a dit « tu peux me tutoyer », je le tutoie et je l'appelle Camille. Alors bonjour à toi, très vénérable frère Camille, et bienvenue avec nous. Nous t'invitons sans que tu n'aies besoin de frapper à la porte. Très vénérable frère, car aujourd'hui Camille vient nous entretenir de son appartenance à la franc-maçonnerie et de son haut grade. Nous dire surtout ce que la franc-maçonnerie lui a apporté dans sa vie de médecin et de chirurgie. La franc-maçonnerie est pour le médecin qui est passionné d'anthropologie de la religion un sujet d'étude fascinant et exceptionnel. La franc-maçonnerie devient le sujet d'étude par excellence et je dirais plus l'outil pour l'étude avec le secret qu'elle défend. Le secret ou son secret, tout est là. La franc-maçonnerie est-elle uniquement une société philanthropique, une gnose ou une religion à part entière? Cette question anthropologique est passionnante. Il faut donc le demander à un franc-maçon, car beaucoup trop de profanes parlent de la veuve. Bonjour à toi Camille.
Bonjour Jacques.
Pour toi Camille, la franc-maçonnerie à laquelle tu appartiens est-elle une religion et qu'est-ce qu'est la franc-maçonnerie?
Ce n'est pas une vraie religion, je ne pense pas, même si certains rites sont très christiques. Je pense que si je suis entré en maçonnerie, c'est parce que j'ai trouvé que dans ce mode d'expression, il y avait quelque chose de passionnant qui était ce qui correspondait un petit peu à mon métier. C'est le souci de l'autre, c'est le désir d'aider l'autre. Et je pense que ceci était très important ensuite. C'est vrai que j'ai été un peu surpris de la façon dont on parlait de ce secret franc-maçonnique. Ce matin, j'ai jeté un coup d'œil sur le Figaro. Il y a une image d'un temple maçonnique, tout à fait normal. On parle de secret, il n'y a pas de secret de la maçonnerie. Le secret de la maçonnerie, c'est son secret intérieur, c'est son « connais-toi toi-même », c'est un « knotiséoton » comme on dit en grec. Mm-hmm. C'est ça, ce secret-là, il n'y a que toi qui le connais, personne d'autre ne peut le connaître. Donc, voilà donc ce qu'est exactement le secret de la franc-maçonnerie.
Donc pour toi, la franc-maçonnerie ne détient pas un secret avec un S majuscule, mais le secret de l'introspection du rite.
De lui-même.
Du rite. Et c'est le secret du rite. Alors peux-tu nous dire comment et par qui, bien que ça va peut-être être un peu difficile, tu es entré en maçonnerie et qu'est-ce que tu as ressenti lors de ton initiation? Et je pousserai les questions à te poser. Quel est ton grade actuel et est-ce que tu as été très vénérable maître? Ça fait plusieurs questions.
Oui, quand je suis entré en maçonnerie, j'ai été initié. L'initiation, c'est quelque chose qui te marque à vie. Et même si tu abandonnes ensuite la franc-maçonnerie, cette initiation restera toujours pour toi quelque chose de phénoménal. D'abord parce qu'on te prive de lumière et que tout ce que tu vas faire, les voyages que tu vas faire et qui correspondent à toucher le fer, à toucher le feu, à toucher l'eau, à toucher la terre, c'est vrai que ceci est très marquant. Mais ce qui m'a le plus plu, ce qui m'a le plus choqué dans le bon sens, c'est lorsqu'on te débande les yeux, c'est-à-dire lorsqu'on te rend la lumière. Puisque tu vas naître à la lumière, c'est une renaissance à l'initiation, dans un nouveau monde. Quand on rend la lumière, on te dit, est-ce que, quand on vous aura rendu la lumière, si vous voyez parmi vous quelqu'un que vous n'aimez pas ou qui est un ami, est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Et je trouve que c'est la plus belle phrase de la franc-maçonnerie, et c'est ce qui m'a fait continuer dans ce sens.
C'est une fraternité.
C'est une fraternité.
C'est une appartenance à une vraie fraternité.
C'est une appartenance à une vraie fraternité. Et je pourrais même raconter une histoire qui m'est arrivée, qui montre ce qu'est la solidarité franc-maçonnique. J'avais eu l'occasion d'initier quelqu'un qui habitait en Israël, dans une loge où on pouvait instruire des gens qui n'étaient pas catholiques. Et un beau jour, je suis allé en Israël, puisque j'ai fait 10 voyages en Israël. Je suis le promoteur ici, quand j'étais en mairie, du jumelage Richon-le-Sion-Nîmes. Donc, j'y suis allé souvent. Et la dernière fois, alors que nous étions allés visiter la mer de Sel, la mer morte, je reviens et la présidente, la femme du président du conseil régional, de Monsieur Blanc, a été victime d'une intifada, a reçu une pierre. J'étais complètement bouleversé. Oui. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit, mais allez là. Je ne savais plus quoi faire. Et là, je me souviens que j'avais initié quelqu'un qui habitait Jérusalem. Je passe un coup de fil, c'était le gars que j'avais initié.
Il n'y a plus soigné cette dame.
Tout s'est aplani. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. On l'a fait opérer dans de bons endroits. Elle a récupéré très vite. Ça a été remarquable. Voilà ce qu'est la franc-maçonnerie. Voilà ce que c'est l'entraide. Voilà ce que c'est la reconnaissance de son prochain.
Alors, est-ce que tu peux nous dire qui t'a demandé de rentrer en loge ?
C'est pas qu'on m'a demandé de rentrer en loge. C'est que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de ça à plusieurs reprises. Et puis un beau jour, quelqu'un m'a demandé si je ne voulais pas rentrer. Je pense qu'en réalité, c'est Jean-Daniel Valade, puisqu'il a été mon parrain. C'est lui qui m'a initié. Donc, c'est Jean-Daniel Valade que je salue ici et qui aujourd'hui est un personnage important sur Nîmes, à la fois politique et à la fois académique.
Et un grand érudit, un grand intellectuel. Et nous le saluons. Alors, quel est ton grade ?
Actuellement, je suis... J'ai le grade, un des grades les plus hauts, puisque je suis, si tu veux, en matière de loges bleues. Parce que vous savez qu'il y a des loges bleues et des loges vertes. Les loges bleues sont les loges de base. Donc je parle de loges de base, je suis plus que très vénérable frère. Et j'ai été vénérable frère de loge 5 ou 6 fois.
Est-ce que tu as été vénérable maître ?
J'ai été vénérable maître, bien sûr.
Tu as tenu le maillet ?
J'ai tenu le maillet à plusieurs reprises dans différentes obédiences, aussi bien dans l'obédience du RER, dans l'obédience dans d'autres obédiences d'ailleurs, puisque j'en arrive même à oublier certains noms. Mais j'ai été vénérable maître plusieurs fois, oui.
Alors, parle-nous de ton obédience, de sa reconnaissance, l'année de sa création par la Grande Loge Unie d'Angleterre, la GLUA, ou GLUA, comme faisant partie des obédiences régulières.
Non, les obédiences régulières sont les régulières en France, sont le GEO, la GLNF, Grande Loge Nationale Française de l'Haut et le Grand Orient, et puis la GLNF, la Grande Loge Française. Moi, je faisais partie de la GLNF.
Qui est reconnue par,
reconnue par
l'Angleterre.
Officiellement reconnue par l'Angleterre, car vous le savez tous, la franc-maçonnerie est née en Écosse.
Voilà, qui est reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est la loge
qui est née en Écosse,
mère de toute la franc-maçonnerie.
De toute la franc-maçonnerie.
Alors, pourquoi tes frères... Pour toi, tes frères ont-ils pu t'apporter cette fraternité que t'as-t-elle apporté ? Tu nous as parlé déjà de cette dame qui a pu être soignée, mais en dehors de ça, leur présence leur...
Mais d'abord, ce qui est formidable en franc-maçonnerie, c'est qu'il n'y a pas de distinction hiérarchique comme il peut y en avoir dans la vie de tous les jours. Il y avait des boulangers, il y avait des ouvriers, il y avait des ingénieurs, des architectes, c'est vraiment, vraiment très... Et celui qui m'a le plus influencé, d'ailleurs, c'était un boulanger qui m'a reçu, et c'est lui avec lequel j'ai ressenti le plus de fraternité, le plus de vérité dans ce qu'il disait. C'est lui qui, le premier jour, m'a dit « La franc-maçonnerie, tu verras, c'est une forme de connaissance qui se décrit par symbole », et c'est exactement ce que c'était. Et j'avais gardé avec ce garçon, qui est décédé depuis, une très grande amitié.
On peut parler d'amour fraternel en maçonnerie.
On peut parler d'amour fraternel, absolument.
Je vous propose une trêve musicale avec la musique de Wolfgang Amadeus Mozart, musique maçonnique funèbre.
Thank you.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Camille Lapierre qui nous parle de la franc-maçonnerie. Camille, je suis témoin de ta déontologie, de ton éthique et de tes principes. Je t'ai vu travailler, nous avons travaillé ensemble, et nous avons travaillé notamment à la clinique sur des patients communs. Et c'est ces principes qui sont fondamentaux dans notre pratique de médecin. Que t'a apporté ton appartenance dans ces domaines ?
Mon appartenance, comme je le disais un peu déjà tout à l'heure, c'est le fait d'être dévoué à l'autre, d'être très à l'écoute, et je crois que c'est important. Et hélas, l'évolution de la médecine aujourd'hui ne va pas dans ce sens. J'ai vu à plusieurs reprises des gens qui se plaignaient en me disant « Mon médecin, il regardait l'ordinateur, il ne m'a jamais regardé. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie amène ce désir d'écouter l'autre dans quel but ? Non pas d'être curieux, mais dans le but de pouvoir l'aider encore davantage. Et je sais que c'est important en médecine, et j'ai peur que l'évolution vers cette médecine en visioconférence n'est pas la qualité qu'elle avait lorsqu'on était face à un patient et qu'on pouvait étudier non seulement ses émotions, mais la façon dont il réagissait à ce qu'on lui disait.
Alors, on pourrait penser que la franc-maçonnerie est une, pardonnez-moi l'expression, une vieille fille. Et en écoutant, on pense le contraire en fait, parce qu'elle apporte... En restant discrète, elle apporte maintenant ce qui manque à notre société, c'est-à-dire le contact. Et apprendre le contact. Et se former à un contact. Et donc, bien sûr, le cites, c'est évident que quand on écoute en tant que vieux médecin, parce que je suis plus jeune que toi, mais nous sommes quand même des vieux médecins, on se rend compte que les patients se plaignent du manque de contact. Et donc, cette vieille dame qui est la franc-maçonnerie, cette veuve, comme les frères l'aiment l'appeler, apprend peut-être, hein, ou apprendrait peut-être à des médecins à être mieux en rapport avec.
C'est sûr que l'importance de cette forme de franc-maçonnerie, c'est l'écoute. C'est l'écoute dans un seul but, je le dis, c'est dans ce but, c'est de pouvoir aider, et ça me paraît important dans nos métiers. D'ailleurs, beaucoup de médecins, je ne dis pas qu'il y en a des masses, mais enfin beaucoup de médecins sont francs-maçons.
Et alors, la franc-maçonnerie t'a-t-elle fait changer au niveau de cette relation, hein, entre la relation malade-praticien, praticien-malade, ce que nous on appelle la relation médecin-malade ? Est-ce que tes initiations, l'appartenance à la franc-maçonnerie, la fraternité, la relation avec les frères, est-ce que ça t'a changé, puisque tu as été médecin non-franc-maçon, puis tu as été initié, tu as été médecin franc-maçon, est-ce que cette appartenance t'a fait changer par rapport à l'approche de tes patients ?
Mais ta question est excellente, parce que je me souviens de quelqu'un qui est venu me visiter, tu le sais, avant de rentrer en franc-maçonnerie, on est visité.
Il faut le dire, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas de rentrer en franc-maçonnerie, c'est comme une décoration, je veux dire, on ne choisit pas d'avoir une décoration, on vous propose une décoration, et le bon sens fait qu'on l'accepte. Bon, en franc-maçonnerie, c'est différent. En franc-maçonnerie, on est proposé par quelqu'un qui approche, ce que les latins appelaient pour les rites à mystère un sponsor, un parrain, qui prend contact, et puis le parrain, le sponsor, vient avec le maître de la loge et vient rencontrer le futur initié, lui propose, lui explique.
Absolument, c'est comme ça que ça s'est passé pour mes deux ateliers, puisque j'étais à la fois dans l'atelier bleu, qui sont les ateliers basiques, et dans les ateliers qui sont colorés et qui sont des ateliers supérieurs. J'ai été visité dans les deux cas, et dans les deux cas, les deux personnes qui n'étaient pas les mêmes, dans les deux cas, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu viens foutre en maçonnerie, Camille ? Tu es chirurgien, tu rends service à tout le monde, tu écoutes les gens. Qu'est-ce que va t'apporter la franc-maçonnerie ?» J'ai dit « Elle va m'apporter quelque chose, à mon avis, de supérieur, c'est qu'elle va me rendre peut-être encore meilleur que ce que je suis aujourd'hui, et va me rendre service, et va faire de moi quelqu'un qui a la sensation de vouloir... devenir quelque chose d'encore mieux que ce qu'il est.
Alors vous voyez que l'anthropologie de la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle la franc-maçonnologie, c'est-à-dire l'étude de la démarche maçonnique, est vraiment passionnante dans la relation humaine. Et tant que chirurgien, tu as eu à certains moments des décisions importantes à prendre, hein, et puis rapidement, quand on est au bloc. Et ce que t'a apporté la franc-maçonnerie, t'a servi dans ces moments ?
Non, pas particulièrement dans ces moments, puisque... Je crois que c'est tout à fait différent, la chirurgie de la franc-maçonnerie. On peut être chirurgien et franc-maçon et qu'il n'y ait pas de communication entre les deux. Non, la chirurgie, c'est très particulier. Et d'ailleurs, on me reproche souvent aujourd'hui, quand je décide quelque chose, de le faire immédiatement. Je décide, par exemple, un acte, je prends mon téléphone, je téléphone, et je sais que les gens qui m'entourent me disent « Mais tu fais ça ?» J'ai dit « Oui, moi je suis habitué à aller vite, une hémorragie, ça se...
Oui, mais ça,
il faut être rapide. »
La psychologie ou la pathopsychologie, la psychopathologie du médecin est primordiale. On ne fait pas chirurgie pour rien, et regarde, moi je suis algologue, d'ailleurs, je m'occupais de la douleur, on ne fait pas algologue pour rien, on ne devient pas algologue pour rien. Existe-t-il des loges spécifiques aux soignants ou aux médecins, comme il existe des loges de députés au Parlement ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait des loges spécifiques aux soignants. Il y a peut-être des loges à davantage de soignants, mais non, il n'y a pas de loge. Je n'ai pas le souvenir, en tout cas, je n'en connais pas de loge spécifique aux soignants. Alors, mais il y a beaucoup de médecins dans les loges.
Ça serait peut-être une bonne idée que je te laisse diffuser. Je voudrais poser une question, Camille, parce que ça m'intéresse personnellement, mais je pense que ça va intéresser tout le monde. Parce que je travaille beaucoup sur les cultes à mystère dans l'Antiquité, notamment Mithra, hein, avec la tauromachie. Je suis en train de rédiger un ouvrage, puisque j'ai fait partie du monde de la tauromachie, et donc les cultes à mystère avec des initiations. Donc on ne connaît pas bien les initiations romaines, des cultes à mystère, et tout le monde est quand même curieux de ce qui se passe pour l'impétrant qui est initié, et qui passe par des étapes. Est-ce que tu peux nous schématiser ce qu'est une initiation, les symboles, le vécu ?
Oui, une initiation, donc, c'est la prise en charge pour devenir maçon. On est d'abord, quand on devient maçon, on est d'abord apprenti maçon. C'est un stade où on va rester un an ou deux ans ou trois ans. Ensuite, on va passer compagnon, c'est le deuxième stade, avec de nouveau des rites particuliers. Et enfin, on va passer ce qu'on appelle l'élévation, on va passer être franc-maçon. Donc il y a trois étapes dans cette évolution. La première étape, apprenti, ce sont des gens qu'on initie par des symboles particuliers. Il faut savoir que dans les loges, il y a tout ce qui peut montrer ce qu'est un maçon, ce qu'est un vrai maçon. Et puis un maçon, franc-maçon idéalisé, la pierre cubique, la pierre blanche, la pierre non sculptée. Tous ces phénomènes aident, si tu veux, à donner l'initiation au nouveau franc-maçon. Ensuite, lorsqu'il a été initié, il est passé par le domaine, je le disais tout à l'heure, par le domaine du fer, de l'eau, de la terre, et lorsqu'il a et qu'on lui a rendu la lumière, il devient apprenti. Cet apprenti a une double fonction. La première, c'est de se taire, de ne jamais rien dire. C'est un peu dur, mais c'est comme ça que ça se passe. Et la deuxième, c'est lorsqu'on passe aux agapes, c'est-à-dire au repas après tenue, c'est eux qui se doivent de servir. Donc, il y a un petit côté un peu particulier. Je n'allais pas dire colonialiste, mais un petit côté particulier. Voilà donc l'apprenti.
Ensuite, mais c'est servir qui est important, c'est servir. C'est servir,
oui, c'est
l'autre,
servir.
Se mettre au service.
Ce qu'il faut retenir, c'est le mot servir.
Voilà, c'est servir, c'est pas s'humilier, c'est servir.
Ensuite, il y a donc le passage compagnon, c'est un passage qui est moins spectaculaire. L'initiation, c'est très spectaculaire, on s'en souvient toute sa vie. On passe compagnon, on a déjà des grades un petit peu élevés, avec des signes un peu différents du signe de l'apprenti. Et après compagnon, lorsqu'on a fait son séjour et les compagnons sont là pour aider aussi les apprentis, on va passer franc-maçon. Là, c'est l'ultime passage, et là on devient franc-maçon en plein. On a le droit de parler, on a le droit de lever le doigt et de se lever. Bien entendu, les tenues sont des tenues absolument silencieuses où seul le vénérable maître à toute sa puissance, et le plus beau titre que l'on puisse avoir en franc-maçonnerie, c'est vénérable maître d'une loge.
Oui.
C'est le plus beau titre, exactement comme en politique, le plus beau titre de tous les titres, c'est maire d'une ville et non pas député, sénateur ou autre chose.
Alors le vénérable maître tient le maillet,
tient le maillet,
qui est
Le maillet est le
symbole de pouvoir.
Et le symbole de pouvoir, de la pouvoir, puissance.
Voilà, de pouvoir, de puissance, mais pour servir. Ce n'est pas de pouvoir pour induire ou pour dominer. C'est pour pouvoir arrêter ou donner la parole.
Oui, alors au stade...
Gérer le fluide de la fraternité.
Et au stade d'apprenti, le maillet frappe trois coups avec deux coups et un coup. Ce qui est très important. Et si tu écoutes bien les symphonies de Mozart dites franc-maçonniques, tu remarqueras ce tempo de 2-1 qui est très net et qui est net et que l'on ressent dans la musique.
Il faut absolument écouter la flûte enchantée.
Absolument.
Mais il faut absolument se rendre à Prague pour ressentir l'immanence de la franc-maçonnerie de Mozart, la franc-maçonnerie, la vraie, du XVIIIe siècle, de l'Ancien Régime. C'est exceptionnel. Et il faut faire Prague... vers Noël avec de la neige.
Oui, c'est vrai, on est aussi, on se dit des fois un peu fiers parce qu'il existe un livre qui est un grand memento, il est très gros d'ailleurs, qui comprend tous les gens qui ont été francs-maçons. Parce que je ne sais pas si vous le savez ou si tu le sais, on n'a pas le droit de divulguer le nom d'un franc-maçon. Oui. Je n'ai pas le droit de dire monsieur un tel est franc-maçon. Ça serait grave, ça pourrait être condamné. Et dans ce livre, ce ne sont que des francs-maçons qui sont décédés et on y trouve des gens brillants. Non seulement il y a Mozart, il y a Armstrong, il y a des grands présidents de la République américaine, c'est fou le nombre de gens qui ont pu adhérer à la franc-maçonnerie.
Alors à part ces trois grades que tu nous as... Il y a beaucoup, dans les rites écossais, il y a jusqu'à 33 grades.
Ah non, c'est pas dans le rite écossais ça. C'est dans le rite émulation.
Émulation.
Mais dans le rite écossais, on peut y aller aussi, parce qu'on peut passer d'un grade à l'autre.
Voilà, alors...
Et oui, là, il y a 33 grades, et une fois qu'on est au 33e grade, il y a encore des gradations. Mais là, ça devient de la franc-maçonnerie philosophique extrêmement difficile d'appréhension. J'ai essayé, moi, de lire quelques textes, C'est extrêmement compliqué et très difficile à lire et très...
D'accord. Mais à chaque grade, donc, il y a une initiation différente.
Absolument, oui.
Et il y a des symboles qui se rattachent au grade, qui montrent que l'impétrant d'un grade à l'autre a travaillé et a pu passer par... a été accepté donc de passer un grade supérieur.
La nuit, c'est lorsque tu as une grosse profession, c'est la difficulté parce que... lorsque tu rentres là-dedans, il faut apprendre. Il faut apprendre et il faut aller dans des loges. Bon, les loges, il y a une loge où on va, on apprend, une loge où on va, où c'est là qu'on t'initie. Donc déjà, ça fait du boulot. Il faut sortir le soir. C'est un avantage aussi, je disais toujours, que
Il faut opérer tôt le matin.
je disais aussi que le premier signe du vieillissement, et tu le sais parce que tu es médecin comme moi, et je sais que tu es compétent, le premier signe du vieillissement, c'est l'homme, c'est quand il n'a plus envie de s'habiller, qu'il a envie de rester en pyjama ou en robe de chambre. Or, la franc-maçonnerie, tu as fini ta journée, il est 7h, 19h, tu te dois t'habiller costume noir, chemise blanche, chaussettes noires, chemise noire, cravate noire. C'est à mon avis, c'est quelque chose qui maintient la vie et qui maintient la jeunesse.
Alors, un grand merci à toi, un très vénérable frère, d'être venu te livrer et nous éclairer sur ton appartement.
Respectable frère.
Sur ton appartement et ce qu'elle t'a apporté, toi qui es un fils de la lumière. Merci à toi Camille, merci à toi docteur Lapierre.
Merci Jacques et à bientôt j'espère.
J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Je vous citerai certains livres sur la franc-maçonnerie, bien évidemment. La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes par Oswald Wells aux éditions J'ai lu. Le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'alchimie et la franc-maçonnerie d'Oswald Wirth chez les éditions Dervy. Devenir franc-maçon de Gilbert Garibal chez De Vici. Dictionnaire amoureux de la franc-maçonnerie d'Alain Brouwer aux éditions Plomb. Dictionnaire de la franc-maçonnerie de Daniel Ligou aux Presses universitaires de France. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.